l'Auberge Espagnole. Sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Comme son nom l'indique, on parle bien de diversité.
Mais enfin donc, vous, vous amenez en fait du rêve et du rire.
Voilà, de la poésie, de la magie.
C'est comme la littérature ou comme le cinéma, la rencontre est meilleure en fait.
Est-ce que c'est pas une façon de dire qu'une œuvre, ça se fréquente ?
Dans l'Auberge Espagnole, on parle aussi de nos différences ethniques, de nos différences sociales, et la notion de diversité.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission L'Auberge Espagnole. Alors au programme du jour, nous recevons dans les locaux de Divergence FM Philippe, Clarissa et Daniel du collectif COU, collectif de danse qui s'est formé au sein des locaux d'ici CCN. Et en seconde partie d'émission, Marco Sorgin recevra à son micro Jean Varela à propos de la 36e édition du festival Le Printemps des Comédiens qui se tiendra du 25 mai au 25 juin. L'Auberge Espagnole, ça commence tout de suite. Alors, je suis en compagnie de Philippe, Clarissa et Daniel du collectif COU. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez indiquer à nos auditeurs, finalement, qu'est-ce que c'est COU et dans quel contexte ça s'est créé ?
Alors, COU, Daniel ici, c'est une structure, une sorte de parapluie qu'on a créé ici, basé à Montpellier, pour accueillir nos travaux dans le champ chorégraphique, mais pas que, autant ensemble, en forme de collectif, mais aussi en suivant différentes flèches et possibilités de collaboration entre nous. Voilà, ça nous permet à la fois de travailler individuellement et collectivement.
D'accord.
Oui, COU, c'est aussi un espace d'expérimentation chorégraphique entre nous. Il faut dire qu'on s'est rencontrés au Master Exerce en 2018 et on avait envie de continuer à travailler ensemble et à partager les échanges, la recherche, le travail. Donc, on a créé COU dans une envie de préserver cet espace d'échange, d'expérimentation entre nous.
D'accord. Donc, vous vous êtes rencontrés à ICI CCN et vous êtes, donc, pour indiquer à nos auditeurs, 6 membres originaires du Brésil, d'Allemagne, de Corée du Sud, du Canada et de France. Donc, c'est une diversité des horizons et des parcours qui est assez représentative, je trouve, de ce qui se passe au sein du Master Exerce, finalement, puisque vous êtes tous des étudiants qui avaient suivi des parcours très différents avant d'arriver dans ce Master. J'imagine que c'est des expériences différentes qui doivent nourrir votre travail aussi.
Effectivement, c'est tout à fait ça. Oui, on a vraiment des parcours très divers. Et avec des formations déjà passées avant d'arriver à Exerce dans le champ de art visuel. Mais Daniel, il est aussi traducteur, il a passé une formation de lettres. Moi, je fais des études dans la musique, dans la composition musicale. Kidou vient du champ aussi de art visuel, croisé avec un focus sur du travail vidéo, voilà. Et donc ces parcours divers se nourrit fortement aussi notre travail collectif.
Je crois que c'est important d'indiquer aussi, enfin, le Master Exerce, c'est une formation tenue en partenariat par le centre chorégraphique, ici CCN, et l'université Paul Valéry. Et c'est un programme assez unique dans son genre. Je pense que c'est peut-être le seul programme de master pratique en danse en France. Et c'est pas comme les autres programmes de master dans le sens d'enchaîner directement. Donc, nous étions des étudiants artistes-chercheurs avec un parcours professionnel déjà bien entamé et d'âge assez varié aussi. Du coup, oui, il y a ce point extra.
Je vois. Et du coup, est-ce que vous êtes réunis au sein de COU par la similarité un peu de vos pratiques? Est-ce que vous aviez des thématiques en commun?
Je pourrais dire qu'on s'est réunis plutôt par la diversité de nos pratiques, les diversités esthétiques qui sont très visibles, les pratiques sont très différentes. Il y a aussi cette diversité de parcours et d'approches au champ chorégraphique, parce que même si on est relié au champ chorégraphique, voilà, ça va traverser des entrées très différentes à travers les textes, à travers les arts visuels, à travers le son, la danse aussi. Donc je pense que c'est plutôt cette différence qui nous attirait à l'idée de travailler ensemble. Comment c'est là pour coexister, comment cela peut faire friction ou au contraire nourrir des recherches qui sont déjà un peu dans un univers individuel mais qui se transforment avec la rencontre de l'autre.
D'accord, donc finalement c'est au-delà même de la danse, ça entrechoque un peu différentes pratiques. D'accord. Bah, je voulais m'arrêter un instant aussi sur le nom que vous avez choisi, COU. Que je trouve assez singulier parce qu'il dénote une identité tout de suite un peu subversive, hein, ça fait penser à ça. Et vous vous définissez vous-même comme laboratoire chorégraphique. Est-ce que donc COU, c'est une façon pour vous aussi de créer une sorte d'espace d'exploration de nouvelles formes de danse, d'aller au-delà de ce qui est déjà fait, de casser des codes?
Je dirais que... un peu, oui, en quelque sorte, mais ça part pas d'un élan, c'est plus dans l'expérimentation que dans nécessairement dans un élan révolutionnaire
oui.
très, très marqué. Mais c'est de laisser de la place, laisser les voies ouvertes pour qu'on puisse tenter d'autres choses aussi dans la forme d'organisation du travail. Parce que cette économie culturelle, elle est aussi assez codée. Il y a des règles, des formes de fonctionnement qu'on doit se constituer en tant qu'association pour pouvoir travailler, mais qu'on peut aussi se servir de cette structure pour questionner ces fonctionnements et tenter d'autres logiques, d'autres formes de fonctionner. Garder vraiment cette exploration, cette expérimentation entre nous.
D'accord. Est-ce que ça se retrouve un peu aussi dans les thématiques que vous abordez ensemble? Il s'agit pour vous un peu de pousser le spectateur au questionnement? Si ça vous paraît assez clair, formulé
oui,
comme
oui,
ça.
Oui, non, je pense que ça passe beaucoup par là. On travaille sur scène dans l'intention de traverser ou d'expérimenter plusieurs registres de performativité aussi. Donc je crois que ça va à la rencontre de cette pensée. Après, ce que ça peut devenir dans la pratique, c'est assez, assez varié et vaste.
D'accord. Bah, en tout cas, pour les auditeurs qui seraient intéressés donc, pour vous rencontrer et puis aller visiter l'ICCCN également, vous êtes actuellement en résidence avec, il me semble, la possibilité de venir vous voir en entrée libre au studio Bagouet du 18 au 29 avril. Et je voulais vous demander, du coup, comment ça se passe un petit peu les résidences pour vous, comment ça s'organise en fait dans l'agencement de votre travail, comment vous organisez pour créer.
Nous sommes en résidence, comme vous venez de dire. On aura une fenêtre de résidence le 28 avril à 19h. Et à chaque fois qu'on se remet au travail ensemble, il y a un vocabulaire qui circule entre nous de pratiques, de choses qu'on a envie d'expérimenter ensemble. Et ce travail autour duquel, cette création autour de laquelle on travaille s'appelle le geste de démarrage. Et c'est aussi parce qu'à chaque nouvelle rencontre, il y a ce vocabulaire qui existe déjà entre nous, mais qui est redémarré à chaque fois, qui est réinventé. Donc aussi, c'est qu'on considère une création plateau dans le contexte des arts vivants. C'est très... Ça bouge beaucoup à l'intérieur. C'est pas une forme figée à chaque fois. On est en train de reconfigurer qu'est-ce que cela veut dire d'être sur les plateaux, de travailler ensemble. Qu'est-ce que ce temps qui est accordé à nous en résidence, de se revoir, de se remettre en question, de revoir où chacun en est de son travail aussi personnel, des expériences qui ont eu lieu entre-temps. Et voilà, de redémarrer cette rencontre à chaque fois.
D'accord. Oui. Et je peux ajouter que cette manière de travailler par résidence pour finalement créer une pièce ou faire une création, ça veut dire aussi que ce changement de lieu est assez pertinent pour nous aussi, surtout parce que dans ce projet, on s'intéresse à... vraiment de voir aussi comment notre travail peut s'adapter au lieu ou comment on peut élargir l'espace et en fait donc là par exemple on est dans le studio Backway chaque jour, mais il y a l'idée aussi de voir mais qu'est-ce que c'est autour. Et comment on peut intégrer ça aussi dans les moments performatifs partagés. Et donc, et voilà, chaque lieu a ses propres fonctionnements. Donc, c'est aussi une manière de rencontre, une rencontre avec l'équipe, avec l'espace. Et en fonction de ça, on change aussi le matériau dedans. C'est pour ça aussi qu'on a vraiment l'intérêt de faire une création où il y a des éléments clairs pour nous, des pratiques qu'on sait, mais qui ne sont pas complètement figées, mais restent malléables en fonctionnement de lieu, comment placer, et comme ça aussi, dans cette idée de geste de démarrage, de garder une certaine déploiement ou développement avec chaque étape de la création et au-delà. Ouais.
D'accord, donc du coup cette résidence c'est à la fois explorer, inclure les différents lieux de l'ICI-CCN, mais le fait de l'ouvrir aussi pendant plusieurs jours, c'est une façon d'inclure le spectateur ou plus pour vous de montrer simplement.
Alors, juste une petite correction. Mais on n'est pas ouvert à tout le long de la résidence.
Ah, d'accord.
Je pense que ce serait même compliqué du point de vue institutionnel.
Oui.
Mais il y a ces moments d'ouverture. Donc, au moment où vous écoutez cette émission, on a fait un club de danse hier lundi, et on fera cette fenêtre sur résidence qui est une ouverture de studio, une présentation d'une étape de travail le jeudi, encore une fois, 28-19h. Et voilà, c'est ça les moments officiels de rencontre publique.
D'accord. Et pour conclure, je voulais vous demander justement ces moments d'ouverture au public de manière très, très simple et matérielle par rapport aux thématiques que vous abordez. Est-ce que vous pensez que c'est assez accessible, notamment au jeune public? Est-ce qu'il y aurait des trigger warnings éventuels, par exemple?
Là, je pense que c'est assez soft. On est dans la douceur. Je pense qu'on travaille beaucoup avec l'amitié qui nous relie pour approcher nos thèmes de travail. Et donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas d'alerte dans ce sens, au moins pour le moment. Et je pense que d'ici là, ça ne risque pas beaucoup d'arriver. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires dans ce sens. Mais c'est plutôt... Bon, dans les arts vivants, il y a toujours ça. On n'arrive pas à contrôler ou à savoir comment un objet peut être reçu par les spectateurs, spectatrices. Mais c'est, il y a cette intention d'une légèreté, d'une amitié qui est présente et palpable, et d'approcher des thèmes et des différentes façons de circuler cette hiérarchie ou les intérêts, mais on n'est pas dans la lourdeur.
Enfin,
c'est une façon de commencer aussi. On essaye de commencer avec attention et soin les uns et les unes envers les autres.
D'accord, bah super, merci beaucoup. Donc je le rappelle à l'intention de nos auditeurs, hein, vous êtes en résidence du 18 au 29 avril. Et donc vous faites une fenêtre sur résidence le 28 avril au studio Bagouet à ICCCN à 19h pour une présentation donc légère et accueillante pour tous les publics. En tout cas, merci beaucoup à vous trois et puis en espérant vous recevoir de nouveau à l'occasion chez Divergence FM.
Merci beaucoup.
Bonjour Jean Varela, alors ça y est, le printemps des comédiens, le festival qui ouvre les festivités d'été, si je puis dire, à Montpellier, arrive. Alors, quelle est la tonalité générale pour vous de ce nouvelle édition du festival? On en est à la combienième d'ailleurs?
Bonjour, à la 36e édition, et la tonalité est une tonalité festive, puisque après 2 ans de festival, soit annulé, soit en version plus légère, nous avons concocté pour cette édition 22, qui en plus célèbre les 400 ans de la naissance de Molière, une édition rassembleuse, festive, avec des artistes internationaux, des artistes émergents, des artistes venus des écoles, des artistes français importants, pour que sous la pinède du domaine d'eau, les spectateurs retrouvent leurs habitudes et la joie d'être ensemble.
D'accord. Alors oui, il y a beaucoup de choses. Hein. On ne va pas pouvoir énumérer tous les spectacles. On prévient tout de suite les auditeurs. Allez voir le site hein, sur Internet et vous aurez tous les détails. Et puis procurez-vous le magnifique programme, hein, qui est un programme épais. Alors, vous évoquiez Molière. Alors, bien sûr, les 400 ans de Molière, comment un festival de théâtre pouvait faire l'impasse? Impossible. Donc, qu'est-ce qu'il y aura alors autour de Molière?
Déjà, il y aura un colloque international avec nos amis de l'Institut de recherche sur les classiques, les Lumières, qui est un labo du CNRS de l'Université Paul Valéry, en partenariat avec la Sorbonne et l'Université de médecine de Montpellier. Donc 3 jours de colloque avec la présence de Georges Forestier, qui est le biographe actuel le plus reconnu de Molière et ses disciples, sur un thème qui est scène de médecine chez Molière. Ensuite, une nuit Molière avec un spectacle présenté par le Nouveau Théâtre Populaire qui se place dans la filiation de Jean Villard, de Copeau, de ce théâtre de Tréteau. Et c'est un spectacle qui a été créé l'an dernier au Festival d'Avignon. Il s'appelle « Le ciel, la nuit et la fête » et il enchaîne le Tartuffe, Don Juan et une comédie-ballet de Molière, Corneille et Quinault, Psyché. Donc on passe d'un classicisme soyeux avec Tartuffe à un concert quasi baroque queer avec Psyché. Une nuit totale. Il y aura une radio théâtrale concoctée par Robert Cantarella dans le théâtre des Micos, qui nous permettra de nous plonger totalement dans l'œuvre de Molière et d'y retrouver les grandes figures, Harpagon, Georges Dandin, Monsieur Jourdain, Le Malade Imaginaire par exemple. Il y aura la venue de la Comédie Française avec un très grand spectacle mis en scène par Ivo Vanov, qui est une des figures les plus marquantes de la mise en scène internationale aujourd'hui, qui est le Tartuffe, la version inédite en 3 actes, avec Denis Podalydès, Marina Hans, Dominique Blanc, Claude Mathieu et la troupe du Français.
D'accord, ça c'est un spectacle qui est au début du festival, hein, si je ne me
trompe. Oui, qui ouvre le festival sur le week-end du 26 mai et qui sera joué à l'amphithéâtre d'Eau.
Alors, donc Molière, voilà, on a entendu le patronage de Molière. Alors, il y a aussi, je dirais, un autre patronage ou un fil comme ça que vous reprenez, c'est celui des origines, entre guillemets, du théâtre, avec la Grèce, l'Antiquité, avec la Grèce, que vous avez élargi même à Rome aussi, hein, avec Sophocle, Eschyle et Sénèque. Ça, c'est, oui, ça nous c'est surprendra que... plus, mais...
Deux grands metteurs en scène nous ont proposé deux créations. D'abord, Éric Lacascade, qui a souhaité adapter et mettre en scène Œdipe roi. Et c'est une création qui aura lieu dans le merveilleux théâtre de l'Agora de la Danse, à la Cité de la Danse, le 25 mai, et qui sera jouée 7 représentations, avec une très belle distribution. On retrouvera Agnès Sourdillon, Christophe Grégoire, Pénélope Avril notamment. Et le travail très rigoureux d'Éric Lacascade qui fera résonner devant ce mur très puissant du théâtre de l'Agora cette tragédie des tragédies qui est Œdipe roi. Ensuite, en effet, Georges Lavaudant, un des maîtres du théâtre, a souhaité s'adapter, lui, vous le disiez, à un poète latin, Sénèque, avec sa Phèdre, et ça sera joué en création au Théâtre d'Eau. On y retrouvera notamment un acteur montpelliérain, Maxime Tafanel, et c'est Jean-Claude Galota qui s'occupera de la partie chorégraphique du travail. Et lorsqu'on connaît la direction d'acteur et la force de la direction d'acteur de Georges Lavaudant, on peut s'attendre à une très belle création dans ce petit théâtre d'eau comme un théâtre de salon. Et enfin, venu tout droit d'Athènes, monté par un acteur metteur en scène qui est une des figures de proue de la scène actuelle athénienne, Nikos Karatanos, c'est le Prométhée qui sera donné au théâtre Jean-Claude Carrière dans une mise en scène tout à fait époustouflante, débarrassée des images d'Épinal de Prométhée et mis en scène dans une maison, un appartement qui va exploser sous la pression de la lutte entre Prométhée et les dieux. Et c'est un théâtre musical puisqu'il y a un orchestre au plateau.
Et je dirais musical à double titre parce qu'il est il sera en grec aussi, donc on aura aussi la musique de la langue grecque.
Ah oui, c'est une joie d'entendre cette langue grecque et de voir combien les Grecs, après les années difficiles qu'ils ont traversées, reconstruisent leur théâtre en s'appuyant sur leur théâtre et notre théâtre des origines.
Alors,
puisque Eschyle est le plus ancien des poètes dramatiques connus.
Alors, il y a aussi une exploration d'autres parties de l'Europe, hein, entre autres de l'Allemagne et puis de la Norvège. Alors, l'Allemagne, c'est notamment avec... c'est pas une pièce au départ, c'est un roman de Kleist, Michael Kolast, qui a été adapté au cinéma. Moi, je me rappelle avoir vu ça dans un film de Volker Schlöndorff.
Il y a aussi le film d'Arnaud Despalières qui a été tourné dans les Cévennes, qui est très beau, sur cette nouvelle de Kleist.
Alors, donc, Michael Kolas, et puis il y aura aussi le Peer Gynt Ibsen. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces deux spectacles qui illustrent, je dirais, le moment romantique du théâtre, on pourrait dire.
Oui, et puis je voulais rajouter, si vous me permettez, l'autre grande compagnie allemande, qui est la Schaubühne, puisque la Schaubühne, dirigée par Thomas Ostermayer, vient avec une mise en scène, une création de Julien Gosselin, Histoire de la littérature allemande, et notre jeune metteur en scène français, qui est un des artistes les plus prometteurs et qui combine au plateau le texte, le cinéma en direct, la musique, va s'appuyer sur un autre texte pré-romantique qui est Les souffrances du jeune Werther. Donc ça, c'est un événement. À côté la Volksbühne, pardon, avec Julien Gosselin, nous avons la Schaubühne de Thomas Ostermayer avec Michael Kolas, mis en scène par Simon McDornay, qui est un bricoleur de génie au plateau et qui nous avait enthousiasmé il y a quelques années au printemps avec The Encounter, cette plongée dans la forêt amazonienne. Donc là, deux grandes maisons allemandes, berlinoises, pour célébrer l'Europe et nos amis outre-Rhin. Et enfin, oui, vous l'avez dit, le Peer Gynt d'Ibsen, mis en scène par David Bobet. On est là dans un théâtre de fables, un théâtre de troupes, un théâtre d'images tout à fait merveilleux, un théâtre de voyage avec ce père Guin qui est à la recherche de son identité, qui va partir en voyage en Afrique, au pays des trolls, au Moyen-Orient, et qui va revenir à la fin de sa vie dans son village natal, où la femme qu'il aimait l'attendait, et où il trouvera la rédemption grâce à l'amour. Donc un très beau voyage comme ça, avec ces personnages que sont Werther, que sont Michael Colas, et qui est Peer Gynt.
Voilà, le Peer Gynt, qui est une pièce fleuve, hein, après, il faut que les spectateurs le sachent, c'est long, on est emporté très très loin. Hein,
c'est un spectacle qui a marqué la reprise des théâtres en France après l'interruption que nous avons vécue et qui a enthousiasmé plus de 70 théâtres. C'est 100 représentations qui ont été données et nous avons souhaité donner ce théâtre très très beau qui se déroule dans un décor représentant une fête foraine à l'amphithéâtre d'eau pour clôturer la programmation de l'amphithéâtre d'eau. Et d'ailleurs, dans cet amphithéâtre d'eau, on trouvera un spectacle très drôle à voir en famille, hilarant, qui s'appelle « Les gros patinent bien » avec Olivier Martin-Salvant et Pierre Guillois, un cabaret de carton où deux acteurs merveilleux nous entraînent dans un voyage depuis le nord de l'Islande jusqu'au sud de l'Espagne, sans pratiquement un mot, mais en fabriquant décors, objets, scénographies, grâce à une myriade de cartons posés au plateau.
Voilà, alors si on continue à faire le tour comme ça, un peu de géographiquement, si je puis dire, mais il n'y a pas que la géographie qui organise le festival, il y a aussi l'Argentine qui sera présente, avec Marina Otero, d'une part, et puis Mariano Pensotti, d'autre part.
Ah oui, alors deux artistes importants venus d'Argentine, en effet. Marina Otero, qui est une performeuse merveilleuse, qui travaille avec simplement son corps et qui fait de son corps tout à la fois cet objet de l'intime et cet objet poétique et universel, politique. C'est une performeuse que nous avions déjà invité l'an dernier, malheureusement le spectacle n'a pas pu être donné, mais depuis ce premier spectacle fait le tour d'Europe avec un succès merveilleux, et là elle vient avec cette nouvelle création, Love Me, pour une première en France. Donc Marina Otero, qui se situe dans tout ce pan, vous l'avez dit, de la performance au plateau. On trouve Steve Cohen également, on trouve Léa Drouet, on trouve Lionel Dré, avec des spectacles très forts, qui travaillent sur le corps et l'imaginaire que le corps au plateau peut déployer. On peut aussi signaler Leonardo Manzan avec Laurie Hall, qui a été une des révélations de la Biennale de Venise en 2019. Et puis l'autre Argentin, Mariano Pensotti, qui vient avec un spectacle première en France, qui me semble-t-il fera date au printemps, qui s'appelle Los Años, et qui est la capacité au théâtre de montrer une vie 30 ans avant, 30 ans après, en montrant deux éléments de décor semblables, qui sont deux appartements identiques, et dans lesquels les personnages jouent simultanément leur vie 30 ans avant, 30 ans après, et c'est totalement bouleversant, et ça montre la capacité qu'a la cage scénique, le théâtre, à devenir une lanterne magique des émotions, du souvenir, du devenir, parce que ce spectacle pose la question de notre capacité à changer, à influencer notre devenir.
D'accord, oui, il y a des superpositions qui sont possibles au théâtre, alors qu'on imagine que c'est plutôt le domaine du cinéma, ces choses-là. Mais non, le théâtre aussi. Alors, donc, vous avez évoqué les performances, hein, là, il y a toujours une place qui est faite aux performances et puis aux arts du cirque aussi. Par contre, je voudrais peut-être parler, pour on arrive au bout de cet entretien, à la place que vous avez accordée à l'ENSAD.
Oui, le printemps a engagé un travail d'accompagnement de la filière théâtrale en Occitanie. Nous avons mis en place le warm-up, qui est ce festival dans le festival, qui permet de voir des maquettes de compagnie, maquettes de 35 minutes après une semaine de travail. Ça permet aux professionnels présents de repérer des artistes. Nous avons mis en place Campus, qui est une série de masterclass ouverts au public où des artistes viennent travailler sous la direction de maîtres. Et en plus, nous accompagnons les élèves, les élèves comédiens qui sont sur le moment d'entrer dans leur dans la carrière professionnelle, puisqu'ils vont quitter l'école après 3 ans de formation intense dans cette merveilleuse école qui est l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier. Et nous avons donc décidé depuis plusieurs années de présenter les spectacles de sortie. Donc cette année, 3 spectacles qui seront donnés au Théâtre du Hangar. Une mise en scène de Gilles Dazmilin, qui est le directeur de l'école, Métamorphose. Une mise en scène et un texte de Charlie Breton qui s'appelle Doldrum. Et Charlie Breton, c'est à signaler, est un ancien élève de l'école à l'écriture totalement singulière. Et une mise en scène d'Aurélie Moreau qui s'appelle Métamorphose. Et ce qui est passionnant pour nous, spectateurs, c'est de voir ce groupe de jeunes comédiennes et de jeunes comédiens magnifiquement formés pendant 3 ans d'études être au service, on peut dire, d'esthétique, d'écriture différente au plateau, et de voir comment ces acteurs encore jeunes sont des matières vivantes totalement disponibles pour tel ou tel metteur en scène. Et ça nous instruit sur notre capacité à déceler des talents en devenir et à accepter également notre condition de spectateur. Car ça nous révèle notre condition de regard et comment on appréhende le travail de ces jeunes et comédiennes et comédiens.
Bien, et puis on a aussi alors une place qui est faite à la bulle bleue, hein, je dirais pour des gens qui sont sur les bords du monde du théâtre officiel, hein, avec ce travail de la bulle bleue. C'est important pour vous de cette place que vous accordez à la bulle bleue
alors,
régulièrement.
Nous allons donner un spectacle à la bulle bleue, mais qui n'est pas une production de la bulle bleue, qui est une production portée par Maglone Vidal, qui est une saxophoniste qui a créé ce spectacle qui s'appelle La Tentation des pieuvres. Et nous travaillons depuis plus de 30 ans avec l'association Adage, qui présente au printemps des spectacles qui font appel à des comédiens en situation de handicap. Et pour nous, c'est fondamental, car le travail mené par Adage ou par la Bulle Bleue, et je peux vous le dire, nous accompagnerons l'an prochain une production de la Bulle Bleue, donc nous sommes totalement inscrits dans cette démarche-là. Accompagner Adage ou la Bulle Bleue est pour nous une de nos missions fondamentales. Et ces artistes-là sont là parce que leur travail mérite intérêt et mérite à être vu.
Bien, comme quoi le théâtre est bien l'art de la rencontre et de la dimension
et du
sociale et du collectif, plus que tout autre, sans doute. Merci beaucoup. Alors, peut-être on va dire concrètement, la location est ouverte déjà, je crois.
Oui, la billetterie est ouverte depuis la semaine dernière. Nous avons un nouveau site internet. Vous pouvez également télécharger l'application du Printemps des Comédiens. Elle est gratuite. Vous pouvez téléphoner au Printemps des Comédiens au 04 67 63 66 67 ou réserver sur le site donc du Printemps des Comédiens, printempsdescomédiens.com.
Bien, nous relayerons tout cela sur le site de la radio.
Je vous en remercie.
Merci beaucoup Jean Varela. Et puis écoutez, bon printemps alors.
Merci à vous et à bientôt au Domaine d'eau sous les arbres.
À bientôt, merci.
Au revoir.
L'Auberge Espagnole, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.
L'Auberge Espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Comme son nom l'indique, on parle bien de diversité.
Mais enfin donc, vous amenez en fait du rêve et du rire.
Voilà, de la poésie, de la magie.
C'est comme la littérature ou comme le cinéma, la rencontre est meilleure en fait.
Est-ce que c'est pas une façon de dire qu'une œuvre, ça se fréquente ?
Dans l'Auberge Espagnole, on parle aussi de nos différences ethniques, de nos différences sociales, et la notion de diversité.